Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux.
Bonjour et bienvenue à tous sur votre antenne préférée Radio G pour l'émission Il est l'heure, Monseigneur. Alors aujourd'hui, on est en petit comité. Il y a Josiane qui est avec nous. Bonjour Josiane.
Salut.
Bonjour Ricardo.
Bonjour Raphaël. Et bonjour tout le monde.
Et votre serviteur Raphaël, voilà. Aujourd'hui, on va faire comme à l'habitude, deviner une petite année mystère, et puis on va débattre de petites choses et d'autres, avec un album de l'année mystère qui plaira à tous, j'espère, et enfin une petite chronique de l'UFC que choisir. Je vous propose tout de suite de mettre un petit peu de soleil dans nos cœurs avec Jennifer et sa chanson Au soleil. À tout de suite.
Avec des petits cactus, c'est mignon comme
voilà.
Tout. Hein.
Donc vous l'aurez compris, petite discussion botanique relative au soleil. Hein.
C'était enregistré, ça.
Tu nous enregistrais. Oh le coquin.
Alors cette année mystère, eh bien écoutez, effectivement, c'était une année où Jennifer était la chanteuse de l'année pratiquement. Hein.
Ça veut dire que c'est une année
plutôt récente, oui. Si Jennifer est la chanteuse de l'année.
Alors, voilà, c'est une année que les moins de 20 ans...
ne peuvent pas connaître.
Ou tout juste.
Ou peuvent. Pour une fois, dans nos années.
Alors, dans l'année mystère, Josiane, tu avais une information intéressante.
Alors moi, la seule information que j'ai gardée de là, c'est que c'est vraiment en cette année-là que le franc a disparu. Oui. Il a fallu aller les rapporter à la Banque de France ou autre parce que l'euro était entré en vigueur pratiquement 2 ans déjà avant. On a toléré les deux choses. Enfin, ceux qui avaient des sous sous leur sommier, leur matelas, ils étaient invités à aller rapporter tout ça à la Banque de France.
Je me rappelle, c'est d'ailleurs la seule grosse info que j'ai gardée de cette année-là aussi, parce que mes parents m'avaient donné, et ma marraine m'a aussi, m'avait donné chacun 15 euros cette année-là, parce qu'on pouvait aller retirer ça à la banque. Et chaque fois, chaque adulte qui retirait autour de moi, j'ai eu des cadeaux, c'est un cadeau, quoi. Je me rappelle.
Est-ce que vous vous souvenez de combien de francs valait un euro?
6,7.
Un peu moins de 7, 6,66.
Si ma mémoire des chiffres ne défaille pas, c'est 6,55, 957.
Je savais que c'était entre... Parce que pendant très longtemps, justement, je m'amusais à multiplier pour savoir vraiment ce que me coûtait telle et telle chose.
Et est-ce que tu as encore ta calculatrice convertisseuse dans francs en euros?
Oui, parce que c'était très curieux, cette calculatrice qui m'avait été donnée au niveau de mon travail et que j'ai pu emporter, elle se recharge à la lumière.
D'accord.
Ah oui. Une lumière soleil, j'ai eu une calculatrice
donc,
comme ça aussi.
J'ai ni pile ni rien, elle fonctionne tout le temps. Bon. Et donc...
Et est-ce que tu convertis toujours en francs?
Non.
Ça y est, t'es passé à l'euro.
Oui.
Bon, c'est bien.
Ah oui. Même moi, j'ai eu du mal à l'époque. Chaque fois, je convertissais pas parce que mais je disais souvent francs à la place de l'euro. Pendant longtemps, c'est resté d'ailleurs.
Moi, j'ai encore des amis d'un certain âge qui me parlent en francs. Hein.
Mais en nouveau ou en ancien? Non, alors, moi, je convertis encore parfois en francs parce qu'il y a des dépenses que je trouve parfois exagérées. Et c'est vrai qu'il y a des dépenses où on se dit, tiens, ça valait cette somme-là. Et ramener en euros, ça paraît moins. Mais il y a quand même une belle augmentation entre-temps, quoi.
Moi, ça, très vite, mon père me disait, ne fais jamais ça, sinon tu ne t'achèteras même pas une bouteille d'eau.
C'est pas faux.
Donc du coup, c'est vrai que quand on parle de quelque chose qui coûtait un franc, et aujourd'hui qui coûte un euro, bien évidemment, il y a un gap financier. Mais
c'est depuis ce temps-là qu'on t'appelle le mort de soif.
C'est ça. C'est exactement ça.
Bon, Ricardo, t'as retenu des choses, toi, sur l'année mystère en question?
Alors, sur l'année mystère en question, c'était la plus grosse info que j'avais retenue. Et sinon, moi, ça a été plutôt, comme on va dire, un peu comme d'habitude, une année pour moi cinématographique. Il y a eu deux pépites. Je sais pas si ça intéresse les auditeurs, mais La Cité de Dieu, je sais pas si ça parle, avec Zé Pequeno.
Joker.
Ah, mais il est mythique, ce film. Ça parle de la vie dans une favela. C'est un film brésilien.
Ouais.
Et l'héros, dans le film, s'appelait Zé Pequeno. Et il était magnifique, ce film, La Cité des Dieux.
Non, je ne connais pas du tout.
À ajouter sur la liste des films à voir.
Si vous ne l'avez pas vu, il faut forcément le voir parce que ça a marqué une génération.
Ouais. Bon.
Et sinon, deuxième film, je pense que ça va parler plus. C'est plus fédérateur parce que c'est du Spielberg. Et ça ressemble à deux monstres. Deux acteurs monstres, dont un, j'aime bien les deux, mais un dont je suis toute sa filmographie, c'est Tom Hanks et son compère Leonardo DiCaprio dans Catch Me If You Can.
Ah, ok.
Le faussaire DiCaprio joue dedans, un faussaire, oui, voilà, il est magnifique, ce film.
Bon, par contre, t'as oublié un film français, pour moi majeur.
Astérix, Mission Cléopâtre.
Exact.
Alors, pour le coup, on me la fait pas. Avec Alain Chabat.
Exact. Il y en avait un autre qui a marqué aussi une génération. Et
ah ouais, tu me colles.
Le fabuleux. Le fabuleux destin.
Ah, d'Amélie Poulain.
Eh oui.
Ah oui.
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'était cette année-là?
Eh oui, cette année-là.
J'aurais pas dit ça. Ah, moi j'aurais dit que c'était 2 ans avant.
Alors, il a été longtemps à l'affiche, mais peut-être pas 2 ans quand même.
Ouais, non, j'aurais pas su que c'était. Ah, mais là, je ne savais pas. Film mythique aussi, le fabuleux d'Amélie Poulain.
Eh oui. Donc, non, c'était une année riche en événements. C'était une année présidentielle, celle-là aussi.
Ah oui. Avec Jospin et Chirac. Jospin qui n'est pas passé au second tour.
Oui,
et
voilà, c'est ce que j'allais dire.
La FN qui est passée au premier tour avec le père. Et le père Le Pen, du coup. Et Chirac qui est élu.
Il y en a pour qui le 21 avril est une mauvaise date.
Hein. Avec les phrases, une phrase qui m'est restée de cette époque quand même, c'est quelqu'un qu'on interviewait qui disait: je n'ai pas voté pour Chirac, j'ai voté Chirac.
Oui, c'était plus on a voté contre quelqu'un qu'on voulait pas. Hein.
Ce que j'ai retenu moi des élections présidentielles, c'est que au premier tour on vote pour quelqu'un, au deuxième tour on vote contre l'autre, quoi.
Oui.
Donc effectivement, un président est élu à 80%. Est-ce qu'il est suivi à 80%? Ça c'est autre chose.
Je ne crois pas.
Mais bon,
je ne crois pas.
Après c'est la démocratie.
Ouais. Là en ce moment, si on m'interroge, j'ai dit je sais pour qui je vais pas voter. C'est sûr et certain, mais
c'est déjà
pour le reste, j'ai pas.
Moi, pour l'instant, je dis, je sais que je vais voter, mais je ne sais pas encore pour qui.
Eh bien, moi, je ne sais même pas quel candidat a ses signatures, pour tout vous dire. Donc, je vous propose immédiatement de refaire une petite pause musicale pour mettre nos auditeurs sur la piste de l'année mystère. Là, on leur a donné quelques repères quand même qui peut les aider. On se retrouve tout de suite après la chanson de Alain Souchon, La vie ne vaut rien. À tout de suite.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à un tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. Les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes. Ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Et il a dit: ah, la vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens. Je tiens là dans mes deux mains éblouies les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie.
C'était Alain Souchon avec « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie hein. ». Il y a des petites phrases comme ça qui marquent.
Hein.
Bon, Ricardo, tu avais un événement majeur pour ta vie, ça a changé ton existence.
Je ne dirais pas jusque-là, mais... S'ils m'avaient redonné tout ce qu'ils ont gagné en prime, peut-être
allez,
oui, ça aurait changé ma vie. Oui.
Allez, les bleus, allez,
oui,
les bleus.
Je pense que c'est, avec cet événement, nos auditeurs retrouveront forcément l'année. C'était l'année de l'euro. De l'euro gagné par la France et c'était le doublé historique parce qu'on était champion du monde 98 et on réalisait le doublé en 2002. Ça m'avait marqué parce que jusqu'à la fin.
On n'aura pas gardé le suspense longtemps, il l'a dit. Donc voilà, c'était la décennie des années 2000.
Ah oui, j'ai donné un gros indice. Mais en même temps, en donnant l'euro, voilà. On savait déjà la décennie.
Ça situait quand même.
On n'en a pas gagné 10 000 des Coupes du Monde, hein, donc c'était facile. Donc, dire qu'on a gagné la Coupe du Monde en 98, c'est un secret de polichinelle.
Bon, et cette même année, donc 2002, puisque Ricardo a lâché l'affaire.
Mais je ne l'ai pas prononcé l'année.
Je me rappelle qu'il y avait un certain José Bové hein, qui faisait de la politique à l'époque, qui a fait quelques jours de prison et tout ça parce qu'il n'était pas d'accord avec une chaîne de restaurants.
Il avait foutu le feu ou
Il avait décidé de démonter un McDonald's.
Voilà.
C'est vrai qu'il y a des lois, hein, faut respecter les lois, quelles que soient nos convictions. Voilà.
J'ai lu ça récemment aussi dans le journal, quelqu'un qui a démonté un McDonald's à Pelteuse, mais c'est pas pour les mêmes raisons que José Bové. C'était pour cambrioler la caisse.
Chacun sa méthode.
Et ses convictions.
Et ses objectifs.
C'est un peu radical quand même. Bon. On avait proposé un pour ou contre cette semaine, un pour ou contre la redevance, les amis. Alors, c'est quelque chose qui existe toujours. Hein. Tous ceux qui ont un équipement, on va dire, de télévision et maintenant d'ordinateur, sont sujets à la redevance.
Ah bon ? T'as pas la télévision, mais t'as un ordinateur, tu payes ?
Exactement.
Parce qu'on peut regarder la télé aujourd'hui si l'ordinateur est là.
Ah oui, c'est vrai.
Et pas encore sur le smartphone et la tablette, mais ça ne saurait tarder. Et alors, la redevance, effectivement, il y a quelques personnes qui en sont exemptées. Je crois que c'est à partir de 75 ans, si je dis pas de bêtises, Josiane.
Ah bah écoute, moi j'en paie toujours, ce serait plutôt 80.
Bon bah voilà.
La courbe suit la déficience visuelle, c'est ça avec l'âge. On dit à cet âge, il regarde moins la télé.
Alors je vais présenter une demande.
Je dis, si c'était ça, j'aurais dû être exempté parce que je suis déficient visuel depuis toujours, on va dire limite.
Bon, non, très concrètement, la redevance audiovisuelle, effectivement, elle finance la télévision publique, mais elle finance également la radio publique. Avec des missions bien larges, hein, puisque ça correspond à l'image de la France métropole, mais également la France outre-mer, hein, comme on l'appelle aujourd'hui. Oui. Donc voilà, qu'en pensez-vous, vous, de la redevance ?
Alors moi, une question que je me pose, si ça finance vraiment les chaînes, pourquoi on nous fout autant de publicité ? Il y a eu quelques années, soi-disant, les films ne pouvaient plus être coupés par de la publicité et tout ça, ça fait belle lurette que...
Ils n'ont pas supprimé la pub le soir ?
Je crois que le film sur France 2, France 3, France 5, effectivement, les films ne sont plus coupés. Mais il y a quand même des pages de publicité déguisées, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. Maintenant. Et puis alors, en plus de ça, alors, si c'est pour compenser, t'as les émissions qui commencent à 21h30, 21h15 ou 21h30. Hein, où est le temps où, à partir de 8h, t'avais ton film. Donc...
Eh oui, mais les choses ont pris une autre tournure, effectivement. Le temps d'écran s'est allongé, donc c'est peut-être grâce à ces pages-là aussi, hein, mais les partenariats, aujourd'hui, la publicité n'a plus lieu d'être sur certaines antennes, mais ils ont remplacé ça par un partenaire de la page météo, un partenaire, la minute construction qui va être présentée par une grande chaîne de bricolage.
C'est de la publicité déguisée, en effet.
Voilà, et pour le coup... c'est vrai que ça interpelle quand même sur ce qu'on fait de l'argent public, parce que il y a quand même des bons programmes aussi qui sont financés grâce à ça. Hein.
Oui, mais ça interpelle sur de l'argent public partout, pas seulement dans ce secteur-là. Mais quand c'est la réserve, on parlait par exemple de l'outre-mer. Si je me trompe pas, la chaîne Outre-mer France O a été supprimée.
Très récemment.
Oui, je ne connais pas les raisons. Et je me demande
dire quel motif.
Oui, c'est ce que je. Surtout si tout le monde paye la redevance, je suppose qu'ils payent aussi la redevance.
Alors ça a été acté l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et sur la nouvelle grille de programme, effectivement, aujourd'hui, les territoires outre-mer ont une meilleure visibilité sur les chaînes nationales.
Ok.
Mais ils n'ont plus de chaînes particulières. Oui. Donc ils étaient en déficit, hein, clairement.
Ok.
Et ils ont recherché un équilibre économique qui doit bien être difficile à trouver quand même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a plus de représentation de la météo à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy.
ça fait bien rager d'ailleurs.
Et là où je ne vais jamais.
Juste un petit peu sur quelques îles.
Mais après, c'est vrai que c'est aussi
t'entends plein soleil.
C'est aussi rappeler
hiver.
Que le territoire national, c'est aussi la France outre-mer.
Oui, l'outre-mer. Hein.
Bah, il devait du coup, comme France 3, par exemple, c'est une chaîne déclinée dans presque toutes les régions. Est-ce qu'il y a une France, enfin, je sais pas s'il y a un France 3.
France 3 Réunion.
Réunion, Martinique, Guyane, je sais pas. Il devrait en faire vu que c'est décliné partout.
Oui,
France 3.
Par les régions, oui. Mmh. Oui.
Bon, après, nous, on profite pas de la redevance, hein, il me semble pas, malheureusement.
Non, Radio Gène n'en profite pas. Non,
enfin, c'est vrai que comme elle est prise...
On n'a pas touché nos cachets.
Je ne sais plus trop avec quoi elle est prise. Elle passe plus inaperçue, si tu veux.
Avec la taxe d'habitation,
quand
c'est
ça. Quand tu reçois un truc, tu regardes la somme que tu as payée en bas et tu ne regardes pas trop le détail.
C'est avec la taxe d'habitation que c'est qu'on paye la redevance télé. Ouais.
Bon, après, moi, j'entends beaucoup de personnes dire « Ah, bah bon sang, avec la redevance qu'on paye, on n'a pas des bons programmes quand même. » Bon, j'ai envie de dire aujourd'hui...
C'est une question de goût et de couleur.
Une grille de programmes hétérogène, c'est pas facile à tenir, j'imagine. Mais je trouve qu'il y a quand même d'excellents programmes, que ce soit sur les voyages, que ce soit sur des documentaires,
France 5 est d'ailleurs une excellente chaîne, moi je trouve, qui... au niveau reportage se calque un peu sur certaines choses qu'on peut retrouver sur Arte, donc non c'est après bon moi je suis quelqu'un, je regarde pas beaucoup la télé, enfin on peut dire quasiment pas, mais je paye quand même la redevance. Ça...
Merci.
Parce que enfin quand je mets la télé aujourd'hui, faudrait dire c'est je suis happé par le phénomène générationnel. Quand je mets la télé aujourd'hui, c'est directement pour aller sur une chaîne de streaming, pour pas les nommer, et regarder une série ou un film que je choisis directement. Donc je choisis mon programme, j'aime bien ce côté de choisir mon programme.
D'accord.
que de zapper 1000 chaînes. À moins que j'allume la télé avant d'aller sur mon programme de streaming, je tombe sur une émission qui m'attire mon attention.
Donc au final, tu t'es retranché dans la fiction plutôt que dans le réel.
Voilà. Et je ne saurais pas dire lequel est pire.
C'est vrai que parfois on se demande.
Alors en plus de ça, je suis vieille, hein, alors vous vous excuserez, mais ils bafouillent, ils articulent pas, on n'entend pas grand chose de ce qu'ils racontent. Et en plus de ça, au moment où tu pourrais comprendre quelque chose, il y a de la musique, le bruit de fond qui emplit tout. C'est vraiment très, très désagréable. Et je me dis qu'ils font pas d'école, ils vont pas comment était-ce là où on formait les futurs acteurs et tout ça, ils apprennent pas à articuler. Alors, en plus de ça, comme on n'a pas une très bonne vue, n'est-ce pas ? Moi, ça fait belle lurette que je ne vais plus voir.
L'imitation de Le Pen.
Je ne vais plus voir. Oui, non, mais j'ai les deux côtés. Hein.
N'est-ce pas ?
Il y a un œil de verre, lui, de l'autre côté. Voilà. Mais si bien que je ne sais plus trop ce que je voulais.
Je suis désolée, je t'ai perdu. Mais voilà, le n'est-ce pas, il me interpelle toujours.
C'est pas grave. Ah oui, si, voilà, je sais. Donc, avec une très mauvaise vue. Il te colle maintenant un certain nombre de trucs de dialogue sur leur téléphone et tout ça. Hein. Alors, il te montre le téléphone avec le SMS qu'il y a dessus. comme toi tu peux pas lire, et ben t'as une partie de, t'arrives plus trop à comprendre ce qui s'est passé.
Oui, bon, après là, tout ce qui est effectivement interaction avec les émissions, là, c'est souvent, je vais dire le mot, un piège à con. Hein. C'est-à-dire qu'il faut envoyer un SMS pour jouer à un truc et ça coûte au final plus cher que le loto et l'euro million.
Alors d'ailleurs.
Et c'est vrai que sur le service public, ça peut être dérangeant.
Oui, alors, désolé, je t'ai un peu coupé, mais ce que tu dis, justement, m'interpelle parce que j'ai l'impression que sur tout, à la radio, j'entends ça constamment quand on écoute une émission et même à la télé. Alors, sur le service public, j'espère que c'est reversé à des organismes, enfin, à des œuvres caritatives, à des associations, parce que c'est, pour moi, c'est de la loterie. Ben, quand on te dit envoie un SMS pour gagner telle somme ou gagner tel objet et que les SMS sont payants, c'est de la loterie. Oui.
Tout à fait.
C'est... Ah oui, et puis alors la réponse que tu dois donner, c'est A ou B, c'est d'une simplicité vraiment.
Oui, mais c'est justement fait pour que tout le monde joue. Donc tu dis c'est de la loterie. Non, mais... Et je me dis, d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une réglementation sur les jeux de hasard? Parce que c'est un jeu de hasard. Enfin, je ne sais pas, c'est de la loterie, moi.
Après, ça ferait l'objet de d'autres pour ou contre. Hein. Il y a plein de choses comme ça où effectivement le devoir d'information il n'est pas toujours respecté. Vous pouvez gagner, oui, mais ils oublient de dire qu'on peut perdre aussi, quoi.
C'est un tirage au sort, donc c'est la loterie.
À mon avis, il y a plus de perdants que de gagnants. Hein. Sinon, ils seraient de leur poche. Ils seraient de leur poche.
Bon. Au final, donc, la redevance télévisuelle, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Est-ce qu'il faut entretenir les grilles de programmes telles qu'elles existent à la radio comme à la télé? Parce qu'à la radio, on en a, ce qui est notre média, effectivement, il y a quand même France Inter, il y a France Musique, il y a France Info, sûrement d'autres France.
Et il y a Move, qui est une radio de jeunes, mais qui appartient à France.
Le groupe Radio France. Et pour le coup, effectivement, c'est quand même des programmes qui sont, on va dire, différents de la grille commerciale qu'on peut nous servir autrement. Quoi.
Oui. Et qui a le mérite d'exister. Chacun, voilà, donc chacun choisit. Alors, moi, le mot redevance, dès qu'il faut payer, je ne suis jamais d'accord, mais. non, je rigole, mais on vit dans une société où partout, il faut quand même participer à la vie de cette société et participer à l'existence du côté culturel. C'est aussi important. Donc, oui.
Quand t'as pas les autres chaînes, parce que t'as pas la Wi-Fi, t'as pas ceci, t'as pas cela, tous les canards qui te filent, tu te dis que vraiment.
Moi, je suis ni pour ni contre, hein, bien au contraire. Voilà. Bon, je vais essayer de payer 50% la prochaine fois. Bon. Les amis, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avec une chanson de l'année mystère que Ricardo a dévoilée. On la rappellera après. Après la chanson.
Mais à coup
de
pas.
Il s'agissait de Natacha Saint-Pierre avec Tu trouveras. À tout de suite.
Mais si tu lis. Sans plus rien à te dire. rassurer mes faiblesses.
Mes faiblesses.
Celles que j'avoue qu'à demi-mont.
Demi-mont.
Mais faut pas mes maladresses.
Maladresses.
Et de l'amour plus qu'il en faut.
Plus qu'il en faut.
J'ai tellement peur que tu me laisses.
Que tu me laisses.
Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes.
Tu me restes.
Mes blessures et mes faiblesses.
Mes faiblesses.
Et que j'avoue qu'à demi-mot.
À demi-mot.
Mais faut pas mes maladresses.
Maladresses.
C'est de l'amour plus qu'il en faut.
Plus qu'il en faut.
J'ai tellement peur que tu me laisses.
Que tu me laisses.
Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes.
Tu me restes.
Donc c'était Natacha Saint-Pierre avec Tu trouveras. Josiane, j'ai une méthode pour te faire économiser la redevance. On s'installe ensemble.
Lendemain oui. De la Saint-Valentin.
Voilà, et puis je bénéficierai des chaînes que je n'ai pas en actuellement.
Donc voilà. Bon, je vous propose, les amis, pour continuer d'écouter la chronique de Jean-Jacques, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a enregistré sa chronique de l'UFC Que Choisir. Donc on l'écoute et on se retrouve tout de suite après.
Ok.
Bonjour. Ceci est une chronique UFC Que Choisir. Le droit à la facture papier. Les banquiers, fournisseurs d'énergie et autres opérateurs de télécommunications cherchent à imposer la dématérialisation des factures. Mais tout consommateur peut exiger la facturation papier avec envoi postal. La facture électronique est désormais une obligation pour les entreprises, mais pas pour les consommateurs. Les grands facturiers, dans la banque, l'assurance, l'énergie, les télécommunications, insiste pour faire accepter un compte en ligne. C'est tellement pratique. Avec l'accès aux factures et relevés, c'est tellement simple. Mais le client consommateur a le choix. Il peut exiger le support papier transmis avant l'échéance par voie postale. Le prestataire ne peut pas réclamer un supplément pour cette modalité qui est de droit et gratuite. Lorsque l'entreprise bascule sa facturation en mode électronique, elle ne peut pas davantage l'imposer à ses clients consommateurs, seulement aux professionnels. Même si le consommateur a accepté la facturation électronique, il peut à tout moment demander le retour au papier, avec envoi postal et gratuitement. Le client peut même exiger de recevoir l'antérieur de facturation sous forme papier et sur 12 mois auparavant. Le professionnel doit veiller à la disponibilité des factures électroniques sans formalité sur au moins un an et sur demande pour toute la période de prescription, en principe 5 ans. Lorsque le client a accepté la facturation électronique, il ne reçoit pas forcément le document dématérialisé avec le message d'annonce. Il doit se connecter sur son compte pour le consulter. Ça veut dire qu'il est plus prudent de télécharger au moins une fois par an ses factures dématérialisées. En effet, en cas de résiliation du contrat, le compte devient inaccessible et la récupération des factures électroniques sera plus difficile. Pensez à visiter nos différents sites internet UFC Que Choisir, site UFC Que Choisir de Maine-et-Loire et notre page Facebook, ainsi que notre site national quechoisir.org. Bonne journée à vous!
Alors, les factures dématérialisées, ça vous parle, Josiane et Ricardo?
Ah. Oui, mais enfin moi dans l'idée, je suis pour parce que surtout pour l'environnement, la réduction du papier. Alors je comprends par exemple que ça, mes parents sont très attachés à la facture papier, surtout chez les grandes firmes EDF, enfin d'autres factures régulières qu'on a ou qu'on a justifiées partout. Ça fait quand même. En niveau papier, au niveau déforestation, monstre.
Oui.
Ah, je sens que on n'a pas dit aux auditeurs, on a laissé tomber la rubrique pour ou contre, hein, Ricardo. Mais j'ai dans l'idée que Josiane voit les choses autrement.
Oui, donc je la vois au
pied. Oui, parce que moi je reste fidèle au papier. Quand je fais les courses, j'aime bien avoir
le ticket.
Voilà, le ticket avec ce que j'ai dépensé, parce que comme je ne me sers pas trop de l'ordinateur, moi j'ai des cahiers où je marque les dépenses. Et comme je ne fais pas ça quand même tous les jours, à la fin du mois, je récupère tous mes papiers. Ça me permet de vérifier aussi par rapport à la banque, les choses comme ça, et je les élimine après. Mais je reconnais que ça fait aussi moins de papiers à classer, tout un tas de trucs. Bon. J'ai un certain nombre de choses quand même qui viennent, l'électricité, enfin des trucs comme ça qui viennent, mais moi je suis quand même attachée au truc papier.
Ça t'aide à mieux mesurer.
Comme contrôle. Ouais.
Voilà. Je m'en doutais parce que c'est générationnel, comme je disais. Enfin, c'est événement par rapport à l'outil informatique, tout ça.
Ça t'aide certainement à mieux mesurer ta consommation, j'imagine.
Oui, tout à fait. Par exemple, je me dis quoi ? Alors là, j'avais eu une grosse surprise par rapport à au relevé bancaire. Je me suis dit quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, grâce à mes papiers, j'ai retrouvé que en fait, c'était la facture du dentiste qui était.
Oui, elle fait toujours mal, celle-là.
Aïe. Voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que... Ah, voilà. Non, et puis...
Mais je suis d'accord avec toi, mais le fait d'avoir la facture dématérialisée n'empêche pas la vérification, justement. On vérifie. Moi, quand c'est une facture importante, je les télécharge, justement, comme il disait dans sa rubrique. Je le stocke dans un dossier. Et d'ailleurs, moi, je fais le contraire. Quand je fais un achat important...
Et la prime, éventuellement.
Mais on me donne une facture papier, un ticket de caisse, comme tu dis. Et je sais que, par exemple, en cas de souci, il va falloir justifier auprès des assurances. Scanne. Parce qu'avec le temps, ça s'efface. Donc, je pense qu'il y a aussi un effet générationnel, en fait, par rapport à l'outil informatique. Mais je te comprends tout à fait. Ouais. Parce que moi, mes parents aussi, ils ont un classeur par.
La maladie, la santé.
Tout est vérifié.
Cela.
Nous, on a des dossiers d'ordinateur.
Mais c'est vrai que j'ai appris à scanner parce que quand tu as fait un achat, tu as la garantie.
Voilà.
Et le ticket de caisse qui
s'efface avec le temps.
Oui, mais si tu n'as pas fait attention, 2 ans après,
il est pâle.
Voilà.
Et comme je dis, les assurances, et ne serait-ce que perdre lors d'un déménagement ou un dégât des eaux.
Oui, il y a d'autres
choses, je touche du bois. qu'on ne puisse pas. Voilà, les téléspectateurs. Les auditeurs n'ont pas vu, mais j'en mettais Raphaël. D'où le petit rire derrière.
Après, effectivement, aujourd'hui, une facture, c'est un document contractuel et donc il a une utilité. Mais c'est vrai que la plupart de nos factures sont aussi très éphémères, quoi.
Oui,
tu parlais des dépenses du quotidien. Moi, je ne prends plus les tickets, par exemple, en alimentaire. Et par contre, si j'achète un appareil qui est sous garantie deux ans ou plus, là, la facture devient indispensable.
Oui, tout à fait.
Après, dématérialiser et avoir la facture en mode électronique, j'y vois autant d'avantages que d'inconvénients. C'est-à-dire que d'une part, le papier, il peut être fragile, mais surtout, on peut la retrouver ultérieurement. Alors, ce que disait Jean-Jacques, c'est très juste. Hein, c'est-à-dire que le jour où on clôt le compte, par exemple, d'un fournisseur d'accès Internet ou d'un fournisseur d'électricité, on n'a plus accès aux factures. Bon. J'ai envie de dire, quand on a quitté un fournisseur 2 ans après, est-ce qu'on va contester une facture ? Moi, ça me paraît toujours un peu curieux. Mais...
C'est pour ça que j'ai dit, ça ne pèse pas grand-chose, ces genres de factures. Moi, si on sait qu'on peut en avoir besoin comme justificatif à un moment donné, le réflexe, c'est d'abord de le télécharger et de le stocker dans un dossier. Voilà. Ça ne pèse pas. Donc,
Bon, donc les factures, effectivement, imprimez-les quand c'est nécessaire et puis conservez-les parce qu'elles peuvent être utiles.
Ou le jour où on sait qu'on va résilier, on va dans le compte et on télécharge tout.
Exactement.
Et éventuellement sur un disque dur externe, comme ça, t'es tranquille.
Oui, toujours 2 copies, oui. Un sur l'ordinateur, un sur le disque externe.
Comme ça, si t'arrive quelque chose sur l'autre, t'es tranquille.
Tout à fait raison, Julien.
On refait une nouvelle pause musicale, si vous voulez bien, et on écoute tout de suite après l'album de l'année mystère. Donc je rappelle que c'était l'année 2002, hein, merci.
Ça, c'est ce qui s'appelle enfoncer le clou.
Ça fait 2 heures que j'ai vendu la mèche, il y a prescription là.
Et on écoute après l'année mystère présentée par Jean-Jacques. Pour la nouvelle chanson, je vous propose d'écouter Je vous propose d'écouter Renaud et Axel Red avec une chanson, Manhattan, Kaboul, qui donnait suite un petit peu aux attentats du 11 septembre 2001. Voilà, à tout de suite.
Petit portoricain, quasiment new-yorkais, dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coach, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Sans langage, mon rêve américain,
moi plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans,
cela on dit jamais ni le Coran.
Devenue poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Chair à canon, deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Donc c'était Axel Red et Renaud avec Manhattan Kaboul, une chanson qui était forte hein, de sens, et puis voilà, qui était censée rapprocher les peuples dans des circonstances bien malheureuses quand même. Je vous propose tout de suite d'écouter l'album de l'année mystère présenté par Jean-Jacques, et on échange tout de suite après.
Quand Patrick Bruel sort son album Entre Deux, il revient sur le devant de la scène musicale et en même temps, c'est une grande réussite commerciale. Le titre de l'album, Entre Deux, n'est pas une histoire d'amour entre deux êtres, quoique. Mais je vais faire par là, pas seulement. Patrick Bruel exprime avec toute surprise son goût pour les anciennes chansons qui fleurent bon l'accordéon, le piano bastringue, la gauloise, la casquette penchée sur l'oreille et les bals du 14 juillet. Et en particulier les airs à succès qu'on écoutait et qu'on dansait entre les deux guerres, 14-18 et celle de 39-45, donc des années 20 jusqu'à l'orée des années 50. Le disque s'ouvre sur la chanson qui sera le titre moteur et sera par la suite maintes fois repris. les amants de Saint-Jean.
Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean.
Ensuite, c'est une enfilade de chansons signées par de grands auteurs, et ici, pour la plupart, chantées en duo. Mélile Montant de Charles Trenet, chantée ici en duo avec Charles Aznavour.
De romans d'amour poétiques et pathétiques, Mélile Montant.
Que reste-t-il de nos amours? Du même Charles Trenet, mais cette fois-ci, chanté avec Laurent Voulzy.
Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes. Devant le feu qui s'éteint, ce soir, c'est une chanson d'automne. Dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Plus étonnant, chanté à trois voix, Où sont tous mes amants? Bruel avec les actrices Sandrine Kiberlin et Emmanuel Béard.
Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles,
ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous.
Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants?
Quand on se promène au bord de l'eau, célèbre car chanté par Jean Gabin dans le film La Belle Équipe, et c'est avec Jean-Louis Aubert.
Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent bleus quand on se promène au bord de l'eau.
Le temps des cerises et Jean-Jacques Goldman.
Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles.
Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour.
Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Avec Johnny Hallyday, très jazzy, époque Saint-Germain-des-Prés, violon et guitare entre Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans le chemin creux, il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus.
Les papillons s'en vont par deux, et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes se font des aveux.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on attend?
Mais qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Avec Daniel Darieux. Ah, il nous fait un amusant clin d'œil car il chantera tout seul, plus loin dans l'album, la chanson « Premier rendez-vous ». Chanson que la comédienne interprétait dans le film du même nom. Bravo Patrick, tu nous as bien eu. Mais là, avec elle, c'est « À Paris, dans chaque faubourg ».
Elle, tout se métamorphose, toutes ses couleurs
de printemps
à Paris quand le jour se lève. À Paris dans chaque faubourg, à 20 ans on fait des rêves, tout est couleur d'amour.
Ils habitaient le même faubourg,
la même rue et la même cour. Ils lui lançaient des sourires,
elle l'aimait sans lui dire.
La complainte de la butte avec Francis Cabrel.
Les escaliers de la butte s'endurent aux miséreux.
Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin.
Et puis il y aura aussi des duos avec Zazie, Alain Souchon, etc., etc. C'est un double album et il contient donc bien d'autres chansons, certaines moins connues que d'autres, mais qui sont bien souvent, grâce à leur ambiance, source de nostalgie et d'émotion pour une époque que, maintenant, la plupart d'entre nous ne connaissent qu'à travers les images en noir et blanc diffusées, ça et là, sur nos grands écrans plats, haute et même ultra haute définition. Et ces mélodies qui nous trottent toujours dans la tête, dans les jambes, pour entamer gaiement une bonne danse d'autrefois, jabba bleu ou valse musette. À bientôt!
Alors Josiane, ça t'évoque des choses, hein, des souvenirs, tout ça.
L'avantage, c'est que quand t'es dans une halte relais, tout ça, tu les entends à longueur de voilà. Alors les amants de la Saint-Jean, je peux plus le voir, j'en ai.
Ça tombe bien, tu le verras pas, tu l'écouteras.
Aïe. Non mais c'est vrai.
Bon, je te voyais fermer les yeux quand même, tu y étais pratiquement.
Ah, pratiquement tout ce qu'il a énoncé là, effectivement, je les connais, je les connais très bien.
Alors la question que je me pose, c'est est-ce que la reprise équivaut à l'original ou est-ce que la reprise surpasse l'original parfois?
Ils sont très bien et je pensais, j'ai regardé, alors que c'est pas mon habitude, j'ai regardé un truc sur la chanson, enfin bref, C'est des jeunes qui viennent proposer, qui chantent à l'aveugle, les fauteuils sont retournés, patati patata, enfin bref. Et il y en a un qui a réinterprété justement « Au de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue », en parlant et en s'accompagnant un petit peu de sa guitare, c'était vraiment merveilleux. Merveilleux. Il y a des chansons de Charles Aznavour qui sont reprises par un comédien actuellement, qui sont vraiment très bien faits, quoi.
Après, ce que je déplore, c'est qu'il y a des artistes qui sont moins repris que les autres, hein. Jacques Sardou, personne ne la reprend. Hein.
Non, mais par contre, son fils, on l'entend. Oui.
Non, pour revenir à l'album de Patrick Bruel, c'est que enfin il a pas quand même pris il a du mérite d'avoir réuni ses grands noms, mais il a pas pris beaucoup de risques dans ces reprises. Il s'est quand même accompagné de grands noms de la scène musicale, peu de chance de se louper quand même.
Non, mais après effectivement il était aussi devenu ce qu'il était parce que il y avait toute cette historique de la chanson française avant lui, et donc finalement il rend un hommage peut-être mérité parce que il a la place des grands hommes, j'ai envie de dire. Est-ce que ça aurait été la place des grands hommes s'il n'y avait pas eu d'autres chanteurs avant lui, hein? Donc voilà. Bon, les amis, on va arriver au terme de cette émission. On va passer une dernière petite chanson et puis on se retrouvera dans 15 jours, bientôt. Je vous propose pour la dernière chanson d'écouter. Alors, on a écouté au début de l'émission Au Soleil par Jennifer. Eh bien, je vais vous proposer d'écouter Indochine qui a demandé à la Lune.
Ah, voilà. Ouais,
c'était une chanson de l'année 2002 qui est bien passée sur les ondes et qui a toujours son public. Voilà, et j'ai envie de dire presque transgénérationnel parce que ça fait 20 ans et les enfants la chantent encore.
Oui, tout à fait.
On se retrouve tout de suite après pour dire au revoir à nos auditeurs.
Ok.
À tout de suite. Les auditeurs n'ont pas profité de la chanson de Josiane, mais voilà. Même Josiane fredonne Indochine. Moi, ça y est, il y a des petites victoires comme ça dans la vie.
C'est la seule que je connaisse d'eux, hein, parce que pas précipiter dessus.
Ok, les amis, on merci de votre présence aujourd'hui. On a bien disserté sur la redevance et je ne sais toujours pas s'il faut la payer ou pas au final.
Je ne sais toujours pas si on est pour ou si on est contre.
Mais tu n'as pas le choix, Raphaël.
Bon. Oui, on va
parce que moi aussi, je réfléchis chez les impôts, du coup.
On ne va pas aller faire comme les gilets jaunes défiler dans les rues.
Bon, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour votre émission Il est l'heure, Monseigneur. Merci, Josiane.
Bye bye.
Merci,
bonne
Ricardo.
Semaine.
Merci, Raphaël. Et on va à bientôt.
À bientôt.
Il est l'heure de ce
quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes.
www.radio-g.fr.